RMC, Willy Sagnol. Ici, c'est Willy.
Allez, bonsoir, 18h03, c'est parti pour Ici, c'est Willy jusqu'à 20h sur RMC. Bon Jean-Louis.
Avec, oui, salut
avec
Willy.
Franck Leboeuf.
Salut messieurs.
Ça va Franck?
Bonsoir tout le monde. Ça va super bien. Comme une fin de semaine, vendredi. On a un beau week-end qui arrive.
T'as prévu quoi?
Je pars à Madrid. J'ai un match de foot contre les anciens du Real Madrid. Avec les anciens de Chelsea.
Te blesse pas. On va encore besoin de toi la semaine prochaine.
Je mets tout sur Claude Makélélé qui joue devant moi.
Allez, parfait. Et François Pinet. Salut François.
Salut Willy, salut à tous.
Tu vas bien?
Moi j'ai pas de match ce week-end.
Non?
Non. Non, non, non. Bah non, on m'a pas invité à ce match-là.
Non.
Légende de Chelsea à Madrid.
Non, non. Bah c'est une charité, donc on invite personne.
Ah oui.
Voilà. Non, peut non pas. Plus, on peut pas inviter.
Ah oui.
Ah bah, y aura un peu de monde dans le stade quand même.
Je sais pas, il prévoit, ouais, je sais pas, 40, 50, tu vois.
1000.
Ah, 1000.
Oui, ah, oui. 40, 50, non, on parle mais... en KF, on parle pas.
Et y a qui comme peut-être avec toi?
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a.
L'eau du panier.
Donc, Marcel Desailly, Claude Makélélé, Gianfranco Zola, Denis Wise, Belletti.
T'es sûr que tu seras titulaire?
Non, c'est pas sûr. William Gallas, qui j'ai d'autres, je sais pas, il y en a plein d'autres.
Bah, c'est pas mal.
Et en face, Babayaro. En face, nous avons Hierro, Roberto Carles, Carlos Morientes, Raoul.
Ah ouais.
Il y en a pas mal, ouais, il y a des bons joueurs.
Ça, c'est intéressant, ça.
Il y a pas
Jean-Louis.
Il y a Christian Carambeu, ouais. Christian Carambeu aussi sera là.
Genre, quelle équipe, ouais. Quelle équipe.
La liste, mais je.
Bon, on va pas parler, nous, de
non,
Chelsea.
Non, petit Lyonnais,
Real.
Faut s'occuper des...
Mais par contre, on va parler de Lyon, Jean-Louis.
Oui, de Lyon dans une seconde, effectivement. Et puis, ce soir, c'est le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-elle échapper à l'Égypte? Le débat, c'est à 19h dans Ici, c'est Willy avec Laure Le Pailleur, Rio Mavuma et notre envoyé spécial au Caire, Timothée Mémon. On présentera aussi le deuxième match des Bleuets à l'Euro Espoir. France-Croatie, ce soir, on sera là aussi sur place. Gros plan aussi sur l'adversaire des Françaises au Mondial féminin en 8e de finale. Et puis notre tour des clubs s'arrêtera ce soir à Nîmes, ce sera à 18h30. On débute donc par Lyon. Juninho, le grand frère, qui a du pain sur la planche.
Juninho qui a tout pouvoir sportif.
C'est rigolo, ça fait plaisir.
C'est marrant, mais j'ai l'impression que je vais avoir du boulot avec lui.
Comme si le sauveur était là.
La priorité, ça part sur la défense centrale.
Là, j'avoue que je sais pas quoi faire.
Cette équipe manque d'agressivité.
Mais qu'est-ce que je vais faire ici?
C'est une équipe qui fait pas mal à ses adversaires.
Je ne sais vraiment pas où je vais.
J'espère en tout cas qu'il va pas arrêter.
Ça promet, hein. Ça promet.
L'actu lyonnaise donc ce soir autour du nouvel homme fort lyonnais, bien sûr, Juninho. Son chantier est-il finalement plus important que prévu? L'actu lyonnaise, c'est notamment la recrue brésilienne Jean Lucas qui devrait arriver en début de semaine prochaine. On parle de 8 millions d'euros, un pari a priori pour Juninho. Alors entre ces recrues à potentiel, des joueurs pas si faciles que ça à faire partir, et puis l'inexpérience donc du duo Juninho-Silvinho, a-t-on bien mesuré?
C'est toi Jean-Louis qui...
Qui?
Bah, Jean-Lucas, c'est pas Jean-Louis en français?
Bah non, c'est Jean-Lucas, je pense.
Ouais.
Jean-Lucas,
bon, c'est juste pas Jean-Lucas.
Jean-Louis,
t'as vu des gens qui s'appellent Jean-Lucas?
Jean-Luc.
Non, mais Jean-Lucas non plus.
Ah, si, nous jamais entendu. C'est toi qui as signé, t'as signé. C'est pas
ta
à nous alors.
Pas devant la défense, qu'est-ce que tu vas être bien?
Ce serait pas bon signe.
Il a mis Touzard sur le banc.
Ouais, ce serait pas bon signe. A-t-on bien mesuré le nouveau chantier lyonnais? Est-il plus important que prévu? 32-16, appelez-nous pour en débattre. On retrouve Edouard G, notre correspondant à Lyon. Salut Edouard.
Salut à tous.
Salut Edouard.
Salut Edouard.
Est-ce qu'on peut lister les chantiers du moment de Juninho?
Alors, il y a déjà de l'argent qui rentre, encore 1 million à l'instant, puisque les Lyonnais transfèrent un jeune Eisha Owusu qui est du centre de formation à 1 million d'euros du côté de la Gantoise. Ça fait désormais 51 millions d'euros qui sont rentrés dans l'escarcelle et chez le banquier de l'OL après Ferland Mendy, notamment avec ses 48 millions. Du coup, il y a déjà de l'argent qui peut être utilisé en plus des droits de la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Alors, il y a un vrai faux suspense à mes yeux, c'est au sujet du gardien de pour Anthony Lopez, qui est en contrat jusqu'en juin 2020. On a suivi la conférence de presse cette semaine du président de l'OL qui semblait un petit peu chafouin. J'ai reçu ses conseillers, j'étais un petit peu déçu qu'il ne soit pas là, le gardien de but lors de ces négociations. Est-ce qu'il peut partir libre en juin 2020? Non, il faut absolument qu'on trouve une solution, sinon dès cet été il faudra partir. Mais j'ai l'impression que cet épisode, ce feuilleton, j'en ai déjà vu des épisodes pour d'autres, tout simplement parce que dès le lendemain, Jean-Michel Aulas sur Twitter a évoqué une augmentation de salaire de 50% pour son gardien. Il dit qu'il est très attaché à Anthony Lopez. Anthony dit qu'il est très attaché au club. Les échanges sont cordiaux. Bref,
donc ça va bien
à mon avis, tout va bien se terminer. Le vrai cas épineux, c'est Nabil Fekir. parce que là, il n'y a pas de son, pas d'image. Lui veut vraiment partir. L'année dernière, il avait failli partir du côté de Liverpool. Mais là, pour l'instant, il n'a plus vraiment d'agent à ma connaissance. On l'a vu avec Jorge Mendes à l'aéroport de Bron il y a quelques semaines de cela. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a signé avec cet agent? Là, on n'a pas vraiment d'informations. Du coup, là, il y a un vrai cas épineux, savoir s'il va rester ou pas. Lui, en tout cas, veut partir et on lui ouvre la porte. Donc là, vraiment, il y a ces départs-là. Et puis, il y a la question concernant Tanguy Ndombele. Va-t-il ou non partir? Alors, en conférence de presse mardi, Jean-Michel Aulas disait la réponse, elle viendra peut-être par l'arrivée, regardez, d'un jeune prometteur. Alors, est-ce que l'arrivée de Jean Lucas, c'est ce jeune prometteur, parce qu'avant le départ de Ferland Mendy, il y avait l'arrivée d'Héritier de Jong, qui est un jeune du centre de formation du PSV, mais là, c'est toujours la post-formation. Voilà pour toutes les pistes actuelles. Donc, il faut trouver un latéral gauche. Felipe Luis, il a déjà un fan club à Lyon et un président de fan club, c'est Jean-Michel Aulas. Le problème, c'est qu'il veut prendre son temps pour donner une décision. Et là, du côté de l'OL, on voudrait assez rapidement être fixé. Défenseur central, je serais tenté de dire défenseur central, qu'il faudrait parce que Morel est parti. Parce que Marcelo, est-ce qu'on veut le garder ou pas?
On parlait de Koscielny, j'ai vu aujourd'hui.
Voilà, ce sont nos confrères de l'équipe aujourd'hui qui parlent d'une proposition de contrat pour Koscielny. Mais ça voudrait peut-être dire là qu'il y aurait un départ de Marcelo. Ouais. Il y a Felipe Luis, donc j'en ai parlé. Et puis... on parle aussi, moi j'ai lu dans la presse italienne de Joachim Andersen, qui est un Danois de la Sampdoria de Gênes, ce serait 18 millions d'euros. Voilà, il y a beaucoup de chantiers.
Ouais. Beaucoup de chantiers donc pour Juninho. Est-ce qu'on a bien mesuré? Et tiens, juste avant de poser la question, on se demandait qui aurait le pouvoir à Lyon. Est-ce que Jean-Michel Aulas prendrait du recul et laisserait Juninho prendre la plupart des décisions? Là, sur quelques jours, on se rend bien compte qu'Aulas est toujours là et que c'est lui qui prend les décisions.
Non, mais celui qui pensait que Jean-Michel Aulas allait se retirer pour laisser les autres décider, celui-là ne connaissait pas bien le président de Lyon. Après, qu'il donne de la latitude à Juninho, je pense que c'est normal. Juninho doit faire ses preuves, aussi. Il va pas lui donner le carnet de chèques du club, alors que Juninho, dans sa carrière après football, n'a encore jamais travaillé une minute, entre guillemets. Donc il faut aussi, je pense qu'ils veulent l'encadrer. Juninho fait partie d'un projet à long terme, mais il faut l'encadrer.
Ouais, après, si Jean-Lucas arrive, ça ressemble à un choix du duo Silvinho-Juninho, hein. Oui, dans le sens des départs, Louis. Effectivement, peut-être que Jean-Michel Aulas a encore la main. Dans le sens des arrivées, ça semble être
le travail. Après, Edouard, il peut peut-être nous renseigner un peu plus là-dessus. Mais moi, je suis surpris. Il parle du gros chantier, c'est derrière. Mais quand on fait des projections éventuellement sur l'équipe de l'année prochaine, on voit donc ce 4-3-3 avec Depay et Traoré sur les côtés. Mais je comprends pas parce que l'entraîneur et Juninho ont dit qu'il fallait être beaucoup plus fort à la transition défensive. Mais si tu laisses ces deux joueurs-là, qui sont les deux joueurs, entre guillemets, les plus nuls sur la transition défensive, attention, je dis pas que ce sont pas des bons joueurs ou des mauvais joueurs, j'ai juste que leur qualité, elle ne se situe pas sur la réaction défensive à la perte du ballon.
C'est quoi, c'est de replacer et défendre?
C'est pas se replacer, c'est par exemple tout de suite aller au pressing.
Ah, oui, d'accord.
Alors, il le faisait dans certains matchs. Hein.
Oui, voilà. Matchs.
Est-ce qu'ils vont, avec ce nouveau coach et avec les nouvelles données, est-ce qu'ils vont être réguliers à ce niveau-là? Parce que c'est vrai que sur certains matchs, que ce soit.
Je sais pas, Traoré, je sais pas, mais Depay, il l'a pas fait quand il avait Van Gaal à Manchester United. Il le fait pas quand il arrive à Lyon, je sais pas pourquoi il le ferait maintenant, mais après, on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises.
Le problème, c'est que tu te retrouves devant quelque chose de contractuel où tu as des mecs qui voulaient peut-être partir, qui avaient peut-être été d'accord de partir, mais qui n'ont pas eu de proposition. Que ce soit Depay, que ce soit Fekir. Donc tu peux repenser ou faire une annonce quand tu signes en disant nous, on va travailler donc sur la transition défensive. Mais après, tu te retrouves avec des obligations contractuelles qui t'empêchent ou qui t'obligent à revoir ta situation.
Ouais, mais tu vois, c'est ça, moi, qui me dérange un peu. Dans ce monde du football d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est la com, c'est presque, je dirais, 80% du travail. Alors qu'avant, ça, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années en arrière, ça représentait quasiment rien. Aujourd'hui, ils arrivent, ils disent voilà, on veut faire ci, on veut faire ça. Pour après, peut-être qu'on s'entend dire oui, mais on n'a pas eu les propositions pour ces joueurs-là, ils sont obligés de rester, on est obligés de faire avec.
Politicien, quoi, en tout cas.
À un moment donné, moi, c'est.
Et puis ça dépasse le cadre du foot, c'est aussi la société actuelle. Moi ça me saoule un peu qu'on soit toujours sur de la forme et jamais sur le fond. Mmh. On le voit, on l'a vu avec la politique sur les européennes, on est toujours sur la forme, on n'est jamais sur le fond. Et le fond, non mais le fond, c'est ce qui fait que tu comme un pays va se pérenniser, enfin comme un pays va être va créer des emplois sur un long terme, et ben un club c'est pareil. Un club s'il travaille que sur la forme, sur le long terme il sera jamais bon.
Alors c'est pas parce que rien n'est public que rien n'est fait, hein. Parce que pour l'instant Juninho est au Brésil, donc il va revenir vendredi prochain, donc ça se travaille un petit peu à distance. Et c'est vrai que par exemple la piste Jean-Lucas ou Lucas, elle nous est arrivée comme ça rapidement, mais par le Brésil, et on a n'avais jamais entendu parler de ce cas à Lyon, par exemple, dans un délai court. Donc, ça veut dire que peut-être ils travaillent sur des pistes, et peut-être que Memphis, ils sont peut-être en train de travailler sur une piste pour un départ. Voilà, il y a aussi une donnée à l'heure actuelle, c'est que c'est pas parce que on ne sait rien qu'il ne se fait rien par derrière.
J'ai une question dans deux. Pour Edouard, en fait, savoir si c'est parce que le prix de Nabil Fekir est trop important qu'il trouve personne. Et l'autre question, c'est pour toi, Willy, qu'est-ce que tu fais si Nabil Fekir ça va pas?
Nabil, je crois, il s'est séparé de Jean-Pierre Bernès et maintenant il faut trouver quelqu'un pour.
Oui, mais je veux dire, quel est le montant? On va le dire vulgairement, on s'en branle à la rigueur de se séparer d'un agent ou pas.
Non, mais ça veut dire qu'au niveau des réseaux. Au niveau des réseaux. Mais est-ce que les personnes qui peuvent l'entourer
aujourd'hui les réseaux c'est bien,
mais elle est pas là ma question. Ma question,
Francky a posé deux questions, voilà, on répond à aucune.
Voilà. Aussi, mais aujourd'hui les réseaux c'est bien, mais aujourd'hui Fekir il fait plus rêver en Europe malheureusement.
Donc on fait quoi? Fekir c'est trop cher. Il a pas de club, il a dit qu'il voulait partir absolument.
Pour moi Fekir aujourd'hui c'est trop cher par rapport au prix demandé.
C'est quoi le prix demandé? C'était ça la première question.
Non, mais c'est aujourd'hui, là voilà,
aujourd'hui Fekir il a basculé dans la, il est plus un espoir, il est plus un joueur qui va arriver au pic de sa forme. Fekir aujourd'hui il est malheureusement, parce qu'il a eu des blessures et je pense que ça, son croisé l'a coupé dans son élan, malheureusement ça
c'est
arrive.
Quoi, c'est 40 millions de transferts,
mais c'est
Edouard,
même moins, mais
c'est combien,
même moins.
Ils attendent combien pour Fekir?
Je ne connais pas, moi j'ai lu à un moment donné que même 15 à 20 millions ils étaient prêts à.
Mais bien sûr, voilà. Parce que aujourd'hui il y a la problématique aussi du salaire.
Là, il y a pas d'offre.
Il y a le salaire. Ouf. Qu'est-ce que tu vas économiser? Non mais regarde Jean-Louis, oui. Qu'est-ce que tu vas économiser? Si demain tu vends 15 millions Fekir, alors on va peut-être dire 15 millions c'est pas beaucoup.
Il y a le salaire.
Mais qu'est-ce que tu économises sur l'année de contrat qui arrive?
Oui.
L'année chargée.
C'est quoi l'année
plus
chargée?
Plus l'éventuel problématique de le voir partir libre dans un an. Donc tu vois c'est...
Donc attends, Edouard me répond aussi, quelle est l'année chargée de salariale chargée de Fekir, tu la connais?
Ça doit être 400 000 net par mois.
400 000, donc on est à 4-5, donc 7-8 millions, ouais. 7-8 millions par an.
Et vous avez Mapou aussi par exemple?
Edouard, tu parles net d'impôts ou net de charges?
Net de charges.
Net de charges,
ouais. Pourquoi tu nous parles de Mapou?
Bah parce que Mapou par exemple est encore en un an de contrat jusqu'en juin 2020.
Ouais. Et ma prochaine question.
À 300 000 euros par mois.
Excusez-moi, il y a Jean-Jacques Bourdin, le bœuf, qui pose plein de questions à tout le monde.
Non mais maintenant, c'est pour ça, je vais attaquer. D'accord. La deuxième avec Willy, maintenant qu'on sait qu'on va, en fait, 10-15 millions, ils vont pas le lâcher, Lyon. Donc, qu'est-ce que tu fais d'un gars qui, pour la deuxième année consécutive, est obligé de rester à Lyon? Comment tu gères ça?
Non, mais si à celui-là, je pense qu'il peut le lâcher, parce qu'il y a une parole.
Oui.
Voilà,
je suis d'accord avec toi, Edouard.
Bon, imagine, il part pas, il n'y a pas un club qui fait une proposition.
T'es d'accord avec quoi, pardon?
À 10 ou 15 millions, il y a des clubs qui le prendront.
Il n'y a pas d'offre, visiblement.
Bon, là, il n'y a pas d'offre. La ville fait qu'il reste, la deuxième année qu'il reste. Qu'est-ce que tu fais toi en tant qu'entraîneur?
Déjà, tu lui enlèves le brassard et puis tu le mets sur le banc. Puis c'est tout. Si tu veux pas le faire jouer.
Bah, ça fait cher.
Non, mais ils ont l'air de pas vouloir le faire jouer.
400 000 par mois.
Et alors? Ils ont fait pareil avec Gourcuff, ils font pareil avec Yanga Mbiwa. Bah, oui. C'est. Voilà quoi.
Non, mais on parle de Fekir en Ligue 1. On parle
mais pas alors
de n'importe qui. Fekir, il a prouvé. Alors certes, cette saison, c'était pas bon. Même si on a vu quand même sur certains matchs. D'ailleurs, les meilleurs matchs de Lyon, c'était quand Fekir était au mieux de sa forme. Hein. On pense au match de Ligue des Champions contre Manchester City. Et là, on nous dit Fekir, on va le mettre sur le banc. Déjà, dans le vestiaire, je sais pas comment ça peut être pris.
Ah, mais ça c'est leur problématique à Silvinho et Juninho.
Et la deuxième chose, c'est qu'en Ligue 1, Nabil Fekir. À 100% de ses moyens, bien évidemment, il peut faire beaucoup de bien. Quand même.
Il peut faire.
Beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir un Nabil Fekir dans son effectif.
On parle même pas du talent de Fekir. On sait que son talent est énorme. On parle depuis maintenant, quand même, une période assez longue, de l'inconstance de Fekir,
oui.
Qui fait que l'inconstance de Fekir dans ses performances a refroidi les grands clubs.
Les grands clubs, ils veulent des joueurs qui soient bons 8 fois sur 10, très bons une fois et moyen une fois.
Mais ça correspond aussi à une mentalité du club, parce qu'on voit Edouard qui nous répond, Edouard est très proche du club, que certaines fois, Depay se replace. Donc ça, c'est rentré dans la mentalité en fait lyonnaise, où certaines fois devrait suffire à faire à peu près à devenir une star, quoi, et à être accepté comme un bon joueur. Mais certaines fois, c'est pas suffisant. Et c'est tout le problème des Lyonnais, c'est qu'ils sont bons certaines fois.
Oui, mais ce qui est sûr, de Juninho, justement, il veut changer.
Non, mais il veut changer, mais c'est difficile de changer de mentalité quand t'as un vestiaire qui fait que certaines fois. Et ça fait des années qu'on dit que c'est que certaines fois.
Oui, mais parce que le problème, c'est qu'ils ont pas trop changé les joueurs. Ils ont gardé les mêmes joueurs, les Fekir.
Donc il y a un sacré chantier.
Voilà, c'est bah, la problématique, c'est s'il reste au club, oui, ça va être un vrai caillou dans la chaussure.
Nabil Fekir, comme tous les champions du monde, a quand même une année difficile, on va dire. Et puis c'est vrai qu'il y a un équilibre de vestiaire. C'est ce qu'a dit Bruno Genesio à la fin. Hein, je crois que dans la passation de pouvoir entre guillemets entre Bruno Genesio, qui se sont vus avec Juninho le lundi avant la conférence de presse de fin mai, il y a cette question d'équilibre de vestiaire sur l'investissement. Mmh. Que tout le monde soit au même niveau au même moment, et ça peut changer.
Oui. Avant de te libérer, qu'est-ce que peut changer le rapprochement avec l'ASVEL pour l'OL?
Qu'est-ce que peut donc ça va être annoncé demain, donc l'OL va rentrer dans le capital de l'ASVEL, donc ça va bien évidemment rapporter des moyens supplémentaires pour l'ASVEL, et du côté de l'OL, il va falloir construire une salle à côté du Groupama Stadium. Donc à terme, ça peut faire rentrer un petit peu plus d'argent encore de façon récurrente dans le club. Et puis Tony Parker devrait, si c'est confirmé demain en conférence de presse, aider l'OL dans son développement à l'étranger, notamment en Chine et notamment aussi aux États-Unis, où l'OL voudrait implanter à terme une franchise de foot féminin.
Bah, il a qu'à remplacer Fekir, Tony Parker. Il est libre. Il est libre en fin de là où c'était.
Ouais, c'est bon. Merci Edouard. À toutes les infos autour de l'OL sur rmcsport.fr. Minute le bœuf.
Ah. Qui c'est qui va venir jouer dans notre club? C'est Franck le bœuf, le champion du monde.
Extrait des tuches. Bah oui.
Ah bon, c'était extrait des tuches? Non, c'était une connerie. C'était
Jean-Paul Rouve, c'est dans un sketch.
Jean-Paul Rouve, c'est pas les tuches.
C'est pas les tuches.
Ouais.
Radio Beerfoot.
Alors.
Alors, tu veux parler de l'interview de Leonardo ce matin dans Le Parisien, que tu as lu attentivement, puisque ça y est, Leonardo apporte de la rigueur, fini les bêtises au PSG.
Oui, bravo. Alors moi, il m'avait semblé qu'on était déjà passé cette ère-là, dans cette ère E-R-E, dans cette ère-là.
Merci.
Pas hier, pas une musique, mais parce que depuis à peu près une trentaine d'années, quoi, qu'on s'était professionnalisé un peu et que maintenant on faisait attention à ce qu'on mangeait, à comment on dormait et arriver à l'heure, et qu'il y avait même des amendes pour les mecs qui arrivaient en retard. Moi, ça a été fixé à Chelsea il y a à peu près 25 ans de ça, et dans tous les clubs à peu près. Je suis très surpris qu'à Paris, ça commence que l'année prochaine. J'ai lu cet article, j'ai quand même, il y a des mecs qui paraient qui sont déjà sur le terrain, les autres arrivent à peine au parking, quoi, tu vois, donc c'est quand même énorme. Donc, je me dis, est-ce que c'est un problème français? Où on a le droit de faire ce qu'on veut, et puis comme un ancien entraîneur va nous dire, où on peut bouffer n'importe quoi, notamment des pizzas. On va rester sur les pizzas un peu hier.
La pizza de Dugas.
La pizza de Dugas.
C'est bon, les pizzas.
Mais je suis très inquiet pour le football français. Si le plus grand club, à l'heure actuelle, du football français se met à avoir une discipline à partir de l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant les années passées? Et qu'est-ce qui se passe vraiment dans les autres clubs? Je pose la question à Willy. Et je suis très inquiet. Ou alors je commence à avoir des explications sur les non-performances des clubs français dans les 20 dernières années.
On va déjà répondre à la question du PSG.
Ouais.
Leonardo, il arrive juste.
Était là en 2011. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, il n'avait pas eu le temps de le faire alors?
Non, il n'a pas eu. Ben, il semblerait que.
Ah, d'accord, ok. Donc, c'est juste maintenant.
C'est juste maintenant.
Avant, ce n'était pas une priorité. Ça allait aujourd'hui.
C'est parce qu'il y en a un qui a dit quand même que c'était devenu une favela.
Il l'avait fait quand même en arrivant, on s'en souvient. Hein. Justement, il y avait des discours comme ça sur la diététique, les pizzas, etc. Après, peut-être que depuis son départ, ça s'est relâché.
Oui, peut-être. Après, c'est toujours pareil. À un moment donné, il y a un cadre qui est mis en place. Et le cadre, c'est quand tu passes le cadre, il y a sanction. Mais on avait l'impression qu'il n'y avait jamais de sanctions.
Et toi, tu l'as vu, toi, dans des clubs en France, des situations comme ça où les mecs font ce qu'ils veulent?
Un peu, ouais.
Ah ouais?
Un peu, ouais.
D'accord.
Et le problème des clubs français, la grosse problématique des clubs français, je veux pas parler des clubs, on va dire de deuxième partie de tableau, où on va se focaliser sur les,
c'est peut-être même plus strict,
soi-disant
voilà, plus strict sur les clubs de deuxième moitié de tableau,
mais on va se focaliser sur nos clubs qui éventuellement peuvent nous représenter en Europe, donc se battre avec d'autres grands clubs européens, donc Marseille, Lyon, Paris,
Saint-Etienne
ou j'en Bordeaux, oublie, mais bref, et... voilà. La problématique de ces clubs, mis à part peut-être Lyon, et encore, on l'a vu ces deux dernières saisons, il y avait quand même des manquements, c'est que l'institution club n'est pas assez forte. On privilégie toujours le joueur à l'institution club. Donc au bout d'un moment, quand tu as des jeunes joueurs qui arrivent, ou quand des joueurs qui arrivent de l'étranger et qui voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent au diapason. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les clubs français, pour des motifs économiques, mais je ne sais pas si c'est le bon raisonnement, vont toujours se dire, oui, mais le joueur, c'est notre valeur marchande, c'est notre, c'est notre capital, oui. Donc on y fait attention, donc à un moment donné, on ne peut pas trop y taper dessus, s'il fait des boulettes, ou... Mais je pense que le calcul n'est pas bon, parce qu'en faisant ça, en fait, le joueur va continuer à faire ce qu'il veut, ceux qui arrivent, puisqu'ils vont voir qu'il y en a un qui fait ce qu'il veut, ils vont faire ce qu'ils veulent, et au bout d'un moment, c'est l'anarchie, ou une pseudo-anarchie.
Mais là, c'est un cercle vicieux, parce que le joueur, si tu lui montres plus de fermeté, il va dire, moi, je vais partir ailleurs, et à l'arrivée, même ta valeur marchande,
non, mais t'as plein de trucs, regarde Saint-Maximin. Le Saint-Maximin, il a, allez, tu vois, tout à l'heure, j'ai dit un gros mot, je vais plus en dire ce coup-là, je vais juste dire, il a chié dans les bottes de son entraîneur.
Pas un gros mot.
C'est pas grave, il est sur le côté un match! Et après, il revient tranquille comme si de rien n'était. Un mois après, ils perdent tout espoir de jouer la coupe d'Europe en perdant lamentablement à domicile contre Caen, je crois. Et le mec, il a passé toute la nuit dans une boîte de nuit à Monaco, en se filmant et en mettant ça sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui s'est passé après?
Rien.
Rien. Le mec a continué à jouer. Donc, si jamais, par exemple, on va pas parler des joueurs étrangers qui arrivent, on va parler des jeunes du centre de formation dans le club. Quand ils voient ça, eux, ils s'entendent dire par les directeurs de centre, si tu fais une boulette, t'es viré. Oui. Et les mecs, ils voient ça en haut, ils se disent, une fois que j'y suis, je fais pareil. Ouais. Et c'est ça notre problématique. On n'est pas conséquent.
La conclusion.
La conclusion, c'est que on se réveille en France, et on met des amendes pour nous. C'était des amendes de 30 secondes où tu prenais ta race, parce que c'était vraiment beaucoup d'argent. C'est pas parce que Neymar a l'autorisation de quelque chose que les autres peuvent le faire.
C'est-à-dire 30 secondes de retard, boum.
30 secondes amende. Amende, c'est 2000 euros la minute, quoi. Il faut
ça. Les gars. Alors c'est peut-être faisable au PSG parce que les salaires sont
énorme. Non, mais tu fais
très, très élevé.
Nous, c'était pas 2000 euros la
minute. Non, mais c'était très élevé. Mais attention, il y a un code du travail.
Ce que j'allais dire.
Il y a un code du travail.
Tu veux faire un règlement intérieur, ça existe,
Mais un règlement intérieur ne prévaut pas sur le code du travail. Aujourd'hui, c'est la plus grosse amende que tu peux mettre à un joueur, c'est une semaine de salaire.
Voilà, très bien.
Lisez le petit article juste en aparté sur Paredes, la sortie, ça me fait beaucoup rire parce que quand même, quand il avait failli
venir. Il est venu.
J'avais déjà dit qu'il ne fallait pas le faire venir, mais bon, voilà, maintenant il est déjà près de la sortie.
Non, mais t'as génial.
Bravo Francky. Léo, si tu nous écoutes, appelle Francky pour le mercato.
Non, mais surtout bonjour à tous ceux qui avaient dit que je comprenais rien au foot. Merci beaucoup.
Ah, on les salue aussi.
Voilà.
Dans un instant.
Oubliez-le. Au revoir.
Pour une fois qu'ils se trompent pas.
Dans un instant, Nîmes, dans notre tour des clubs, l'une des révélations de la saison. Comment faire la saison prochaine qui sera peut-être la plus difficile? À tout de suite.
RMC, Willy Sagnol. C'est Willy.
Allez, 18h30, de retour dans Ici, c'est Willy avec Franck Leboeuf, François Pinet et Jean-Louis Tour. Bon Jean-Louis, c'est l'heure où on va sauver un club.
Oui.
Ou en tout cas essayer de le conseiller un peu pour l'année prochaine. Et je vais faire un retour sur une chose.
Oui.
Monsieur Franck Leboeuf nous a parlé de... C'est quand le retour de la discipline dans les clubs français.
Oui.
Mais les gens verraient en off, mais quand il n'y a pas l'antenne, il est intenable sur ce plateau.
C'est le plus intenable.
Oh là là, mon Franck, là, je suis.
Il est sur son téléphone.
Déjà, j'ai essayé de me concentrer, et puis j'entendais que toi. Et
il parle quand il ne faut pas.
Ou je parle quand il faut pas. J'ai émis certaines choses, vous n'êtes pas d'accord. Et à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord, c'est moi qui fous le bordel.
Et encore, on a échappé aux myrtilles aujourd'hui. L'autre fois, il mangeait des myrtilles en parlant.
Non, mais attends, les myrtilles, Franck, il faut l'expliquer, les myrtilles, ça aide à.
brûler les graisses.
À maigrir. À maigrir du ventre. C'est les flavonoïdes qui mangent le sucre. Enfin, vous avez dans le ventre.
Qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être avoir quelques petites
infos. La graisse du ventre.
Bon, voilà. Des myrtilles.
Jean-Louis, il s'en fout.
Dans 15 minutes, oui.
Il a tout lâché.
Je mange un camion de myrtilles.
Dans 15 minutes,
il
met dans sa
le journal moyen avec Adrien Aigouin. Salut Adrien.
Salut les amis. Un anniversaire important aujourd'hui. Ah. Concerne le foot français. Ah bon. On parle à 18h45. Et puis, ça vous dit rien ?
Zizou le dimanche.
Alors oui, mais c'est pas
c'est
ça.
C'est aujourd'hui, il a dit.
Aujourd'hui.
Ah, c'est aujourd'hui.
21
c'est
juin.
Je sais pas.
21 juin.
Zizou, je sais pas.
C'est une date très importante pour le foot français. Magnifique.
Bien, bon, et puis, Bulgari, non ?
Non, non, non. Et puis, question pour une canne. On va voir si vous êtes apte et compétent sur la Coupe d'Afrique des Nations de football.
Très bien, à tout à l'heure, Adrien. Merci. Même le vendredi, notre tour de France des clubs continue. On va dans le Gard.
RMC, le Dugatour des clubs, Nîmes.
Le but d'Mbappé est très beau, mais celui de Bobichon aussi. Qui nous a marqué en deuxième mi-temps, il est pas mal non plus.
Oh, les Limois mettent des buts fabuleux.
Comme tous les soirs, on s'arrête donc sur un club qui sera en Ligue 1 l'an prochain. On termine la semaine avec Nîmes, 9e du championnat, l'une des équipes révélation de l'année, avec le caractère, les jolis buts, une équipe cohérente et qui a assuré son maintien en Ligue 1 très largement pour un promu. Avant d'accueillir notre invité Laurent Boissier et de lui donner la parole, lui qui est déjà avec nous, le directeur sportif de Nîmes. Bonsoir Laurent, on vous salue.
Bonsoir Laurent. Salut.
Votre avis, messieurs, Francky, Willy, sur la saison de Nîmes, donc pleinement réussie, et il va falloir vite se projeter sur celle qui vient. On dit souvent que c'est celle-là qui est la plus difficile pour un promu, la deuxième.
Le foot aujourd'hui, c'est tu vois, t'as quelques clubs qui sont tous devant, t'as 5-6 clubs devant, et puis après il y a 13-14 clubs qui se tiennent en pas grand chose en théorie. Donc même la deuxième, la troisième, la quatrième année seront difficiles. Mais ce qui est sûr, c'est quand tu remontes comme ça de Ligue 2, moi ce qui m'a déjà plu, c'est qu'ils ont gardé la même façon, la même philosophie de jeu par rapport à la Ligue 2, une équipe offensive. On se rappelle, enfin moi je me rappelle toujours ce 4-3 à Angers, qui avait été exceptionnel. Et ils sont restés, après il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est normal. Mais il y a quand même eu l'émergence de certains joueurs, l'affirmation d'un entraîneur un petit peu inconnu à ce niveau-là.
Bernard Blacquet.
D'un club qui revenait après des années de plus
avoir et finalement c'était une belle année. A publié gratuitement son annonce sur ce loger. Si elle a choisi ce loger, c'est parce que...
Je dirais il y avait eu l'été dernier, ils étaient partis éventuellement avec Bozok, si vous vous rappelez, comme attaquant.
Salut, moi, c'est Vincent.
Bonjour, Vincent.
Un peu sérieux, on a un invité avec nous en plus. On a des pubs qui partent sans qu'on le demande.
Dimanche. On va payer le salaire. Hein, parce maintenant, ça commence les pubs.
Bon, désolé, mais vous êtes bien sur RMC, Radio Nationale. T'avais fini
où? Non, mais je ne savais même plus s'il fallait que je continue ou que je m'arrête.
Vaut mieux. Bon, bah, c'est bon.
J'ai pas fini.
Des joueurs qui se sont révélés.
Voilà, et puis il y a eu des cas aussi à gérer un peu. Bozok, qui était le meilleur buteur en Ligue 2, qui cette année ça a été très difficile, mais ça a pas impacté le reste de l'effectif. Et c'est vrai que Laurent, il est habitué aussi à travailler avec des moyens un peu moins élevés que dans certains clubs.
Oui. Mais il fait toujours,
des belles trouvailles et on espère qu'il va nous en faire cette année aussi.
Laurent, déjà pour être sûr, vous restez au club pour l'année prochaine ?
À part si on me vient, mais normalement je vais rester.
D'accord. La saison qui se profile, est-ce qu'elle va être plus difficile que celle que vous venez de réaliser ?
Moi, tout le temps, j'entends dire la deuxième et la troisième, mais en fait, si tu arrives à garder l'ossature de ton équipe, je vois pas pourquoi elle se recouvre. Maintenant, c'est toujours une année compliquée parce qu'on n'est plus l'invité inattendu. Donc, je pense que les gens vont faire un peu plus attention à nous et que ça risque d'être un peu plus compliqué. Ouais.
C'est ça. Alors justement, l'enjeu, c'est de garder l'ossature, vous venez de le dire. Ça veut dire que pour sortir les joueurs de cette ossature, les Savanier, les Briançon, il va falloir payer cher ou ils sont même intransférables, même s'il y a une grosse offre ?
Bon, moi, je ne m'occupe pas de ça. Ça, c'est le président qui s'occupe des chiffres. Moi, je suis pas un mec de chiffres, c'est un mec de terrain. Après, les gens qui disent que les gens sont intransférables, je pense que c'est n'importe quoi dans le football parce que tout est acheté, tout est à vendre, malheureusement, aujourd'hui. Donc, maintenant, nous, on a envie de conserver par l'intégralité de notre équipe. Maintenant, je sais que ce sera pas facile. Donc, on va essayer, on va voir, on va se battre en tout cas.
Et Laurent, tu peux nous donner un peu une tendance, puisque lui, c'est pas une question de transfert, c'est le gardien Bernard Donny qui a quand même fait une sacrée belle saison. Vous essayez de le conserver encore un an ou vous n'essayez pas?
Je sais pas trop, c'est pas moi qui ai les mains libres là-dessus. On va partir à Bordeaux. Voilà, après il faut savoir qu'est-ce que vont vouloir faire les Girondins, quelles seront les envies de Paul. Voilà, bien sûr que moi j'aimerais vraiment le conserver. Bien sûr qu'on fera ce qui est en notre pouvoir pour essayer. En tout cas, le garçon est bien chez nous, on est content qu'il soit là. Donc on va essayer, oui.
Sur l'entraîneur, vous disiez il y a quelques jours, Bernard Blacard sera à Nîmes la saison prochaine, c'est une certitude, parce que son nom a été murmuré à Dijon. On parlait d'une offre pour lui et vous vous êtes un peu énervé en disant j'ai l'impression que sur le marché des transferts on nous prend encore pour un petit club. Pourquoi vous dites ça?
D'être content, parce que chaque fois moi je m'énerve avec vous à la radio. Ça vous fait des bons trucs avec moi. Non mais bon, c'est pas que c'est énervant, c'est qu'à un moment donné il faut respecter les gens. Moi je suis quelqu'un de respectueux, je vais pas dans des dossiers où je sais que les clubs ont pas envie qu'on y aille. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est un manque de respect de se permettre de contacter notre entraîneur sans nous en parler déjà. Et puis en plus des fois, tous les jours que j'ouvre le journal, je vois qu'un joueur de chez moi dépose un dossier à droite à gauche. Ouais, donc ouais, je pense qu'on nous prend un peu pour des guignols, bon, on va essayer de montrer qu'on n'en est pas.
Oui, et là où vous n'avez pas été aidé, c'est aussi avec tous les matchs déplacés toute la saison.
Les matchs décalés, c'était un enfer.
Ouais, ça c'était compliqué aussi.
Ouais, mais bon, ça c'est pas grave, hein, on s'est maintenu. Et voilà, après, je pense que ça a été difficile pour tout le monde cette année. Effectivement, nous on en a eu beaucoup, mais bon, après c'est comme ça, c'est la faute à personne, c'est le pays qui était en souffrance. Et à ce moment-là, le football pour moi il est anecdotique.
Vous trouvez son local.
Voilà, c'est pas bien grave.
Laurent, oui, quel est l'objectif principal pour une fonction comme la tienne pour l'année prochaine? Qu'est-ce que tu essayes de faire avancer ou de stopper par avoir une hémorragie d'un effectif ou un truc comme ça? Quel est pour toi ton objectif principal cette année?
Enfin, moi, tu sais, c'est simple, c'est de partir pour une fois l'année prochaine déjà. D'essayer d'être au niveau de la Ligue 1. Après, c'est très bien que le football aujourd'hui, c'est malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, c'est des sommes d'argent, des trucs comme ça. Voilà, moi, mon objectif, c'est de donner à Bernard une équipe compétitive à mon public et à mon président. Après, je suis pas plus inquiet que ça. On verra bien. Donc là, j'ai toujours eu l'habitude de travailler comme ça. Je sais pas si notre modèle il va être viable longtemps en Ligue 1. Maintenant, on va essayer de faire en sorte d'avoir une équipe sympathique et de faire chier encore du monde.
Tu vois, Laurent, on loue un peu la tes qualités, voilà, pour aller chercher certains joueurs, pour dénicher certains joueurs qui vous ont fait avoir le parcours qu'est le vôtre depuis 2-3 ans maintenant. Comment tu bosses toi au club? T'as combien de recruteurs avec toi? Parce que c'est des choses on n'aborde pas souvent.
Ouais,
et c'est vrai que tous les clubs travaillent un peu de manière différente. On aimerait savoir comment toi tu travailles à Nîmes.
J'ai un peu honte de la question que tu me poses, mais moi je suis tout seul, j'ai pas de séjour.
Alors dis pas que tu as, c'est plutôt une fierté, parce qu'il y a quand même des bonnes choses qui ont été faites.
Moi je suis seul, j'ai pas de scout, j'ai personne. Je vois ça avec mon ordinateur et je travaille beaucoup de temps dessus. On essaie de montrer un peu le moins possible, mais bon, c'est le modèle qu'on a décidé, le président a décidé comme ça.
Ça veut dire quoi que tu vas te focaliser sur des joueurs français ou en tout cas qui évoluent dans le championnat de France, Ligue 1, Ligue 2?
Moi, je regarde beaucoup les joueurs en France, de championnat et même le national. Après, je fais aussi beaucoup les championnats étrangers, mais qui sont très peu connus et pas regardés, je pense, par beaucoup de monde. Maintenant, voilà, moi, je suis un entraîneur qui parle pas anglais, pas espagnol, pas allemand, pas italien, donc il aime bien que les joueurs soient francophones déjà à la base. Donc, puis c'est un entraîneur qui aime travailler avec les anciens. Donc, moi, je me focalise beaucoup sur les joueurs et généralement sur des joueurs français, quoi.
Bah, écoute, si t'as fait ça tout seul, félicitations. Mais après, voilà.
Tout seul parce que il y a le président qui m'aide aussi pour valider mes dossiers et le coach et l'entraîneur adjoint, Jérôme aussi, qui me file un coup de main sur les dossiers. Mais non, on n'a pas de scout, on n'a personne. Moi, je travaille tout seul, quoi.
Et voilà, après, la dernière, enfin, une des questions les plus importantes, puisque c'était un petit peu votre joueur phare, même si vous mettiez en avant le collectif, le petit Savanier, c'est quoi son avenir?
Bon, là, aujourd'hui, je peux pas trop répondre, j'en sais rien. Moi, ce que j'espère, c'est que TJ sera avec nous l'année prochaine. Donc,
il a fait une demande, lui, de partir ou pas?
Non.
D'accord.
Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, rien du tout, mais. Bon, voilà, après, il a 28 ans, ce gamin, c'est un peu, c'est un gamin que j'apprécie énormément parce qu'il a eu un parcours atypique et aujourd'hui, ben, si doit aller ailleurs et que le club s'y retrouve, je vois pas pourquoi l'empêcherait. Il faut pas empêcher les gens de vivre leur rêve, hein, c'est que du football, donc voilà, il faut que tout le monde soit content, que mon président soit content, que le Nîmes Olympique soit content et que TJ soit content. Et à partir de là, moi je laisse mon président et TJ se débrouiller. Maintenant, la seule chose que j'ai envie, c'est qu'il reste avec moi, voilà, tout simplement. Mais, permettre de tout. Hein.
Visiblement, ça chauffe avec Saint-Etienne pour Bouanga. Pouvez nous en dire un mot?
Ouais, pour le moment, non. J'ai mon téléphone, il a beaucoup de batterie, hein. Il est toujours chargé. On sort beaucoup toute la journée et j'aimerais vous dire des choses que je. Mais bon, pour l'instant, non.
Bah, nos infos RMC Sport, c'est qu'il y a un accord entre le club et Bouanga. Alors après, ça veut dire que peut-être que le club s'est pas mis d'accord avec vous. Ça va pas vous plaire, ça.
Quel club?
Saint-Etienne, ouais.
Que monsieur Romeillet, je vais pas passer mon téléphone dans l'antenne parce que je vais être emmerdé sinon, mais bon, il sait où me joindre, je pense.
Oui, on passera l'info à Roland alors.
Bon, il va bientôt vous appeler alors.
C'est passé par Willy Sagnol.
Oui, il faudrait te l'appeler quand même.
Ah oui, moi tu me connais, en plus je prends pas de com dessus moi.
Beaucoup malheureusement, tu vois.
Laurent, merci beaucoup. Merci.
Salut Laurent.
Bonne saison à toi Laurent. Bon mercato.
Ouais. Merci Laurent.
Bravo. Allez,
Laurent Boissier, directeur sportif donc du Nîmes Olympique, qui était avec nous sur RMC.
C'est un sacré travail quand même.
Tout seul, hein.
Tout seul.
Ah ouais.
En plus, non, depuis, plusieurs fois, on a eu ce débat-là où on disait les clubs français, il faut aussi qu'ils se
renforcent,
le recrutement, le scouting, pour trouver. Et puis tu vois un mec comme ça. Après, c'est vrai que le recrutement était très focalisé sur Ligue 1, Ligue 2, National, comme il l'a dit. Donc c'est des joueurs qui sont dessous. Mais
tu te plaignais d'être tout seul à Bordeaux. Tu aurais pu très bien te débrouiller tout seul. Voilà, c'est ça la morale.
À Bordeaux, t'étais tout seul, toi aussi.
Tu vas l'énerver.
Ah non, mais moi, j'étais pas dans la cellule recrutement, j'étais pas directeur sportif.
Non, mais bon. Oh, tu vois ce que je veux dire.
Non, mais arrêtez avec vos blagues.
Oui,
non, mais
oui, arrête, Francky, c'est pas gentil.
Ouais, c'est vrai.
Dans un instant,
Jean-Louis.
Le journal moyen avec Adrien Aigouin. Tout de suite.
RMC, Willy Sagnol. Ici, c'est Willy.
Allez, 18h47, toujours dans Ici, c'est Willy sur RMC avec Franck Leboeuf, François Pinet et Jean-Louis Tour. Bon, Jean-Louis.
Oui. Après 19h.
Un peu de discipline, Jean-Louis, s'il te plaît. Arrête de t'amuser avec Franck Leboeuf.
Je suis la discipline.
Arrête de t'amuser avec Franck Leboeuf.
On va les séparer tous les deux.
Ouais, je crois qu'il a trop de poils au niveau de l'épaule.
Tu vas changer de côté, Franck.
Oh, il est relou, là.
Est-ce qu'on peut parler de cette CAN, Jean-Louis?
Oui, au tableau. Sûr.
Alors, s'il te plaît.
La CAN peut-elle échapper à l'Égypte? Ce sera notre débat juste après 19h. On sera sur place au Caire. Et comme d'habitude, pendant que je parle, il y a toujours une petite voix. Franck Leboeuf qui fait des petits mots. Là, on comprend rien.
Jeanne.
Ah, voilà, c'est ça qui est
chiant. C'est très intéressant.
Tout de suite, c'est le journal moyen avec Adrien.
Vous ne vous supportez plus, hein? Faut des vacances, David.
Si, on s'adore.
À la une du journal moyen, d'ici c'est Willy aujourd'hui sur RMC. Un bel anniversaire donc. Question pour une CAN. Et puis, un joueur français a mis le feu en Espagne, c'est peut-être volontaire. Vous allez analyser tout ça, vous êtes spécialiste de la communication.
Ouais.
Bon, vous êtes prêts, vous écoutez Ici c'est Willy, c'est le 38e journal moyen de l'histoire d'Ici c'est Willy, mais il y a plus important aujourd'hui. Nous sommes le 21 juin 2019.
Oui.
Que se passait-il il y a 33 ans? Vous êtes des amoureux de football?
33 ans?
Ouais, 33 ans.
33 ans, qui c'est qui est né?
Il y a 33 ans, il y a un mec un peu.
J'étais né, mais.
Il y a un mec avec les chaussettes un peu baissées qui prend le ballon.
Luis Fernandez.
Et puis ça donne ça sur le terrain. Plaisir. Il va tirer un tir au but. C'est parti.
Allez, mon petit bonhomme!
Le 21 juin 86, Brésil-France, quart de finale de la Coupe du Monde à Guadalajara. Luis Fernandez qualifie la France. Joyeux anniversaire Luis, et joyeux anniversaire. Luis, c'est son anniversaire perso. Michel Platini, 64 ans également.
Ah, donc Michel Platini,
une journée anniversaire incroyable.
Joue son anniversaire, il rate son péno.
Ouais,
c'est dingue. Et Luis le sauve. Oui, Luis Fernandez,
bravo,
il était
Luis,
là. Luis,
alors il faut raconter la petite anecdote aussi, que toujours c'était. Et il s'était entraîné toute la semaine à tirer sur la droite et l'a tiré à gauche.
Il change, bien sûr, Willy. Tout ça pour vous dire que c'était le 38e journal moyen de l'histoire d'ici c'est Willy. Voilà. Jingle.
Ah ouais.
En direct de la rédaction de RMC Sport, le journal moyen, d'ici c'est Willy, Adrien Aigouin.
Luis, j'adore Luis, légende sur le terrain, légende sur le banc de touche quand même, champion d'Europe, et puis légende même à la radio, Luis.
Oui, une équipe qui reçoit toujours cette faveur de recevoir.
Hein. Merci Luis, mon Luis, je t'aime et je t'embrasse très fort.
Dans le podium c'est quoi? C'est dans les 3 ou dans les 5?
Dans les 3 Luis, les 5 c'est plus un podium.
T'es bon toi?
Oui, merci Luis.
Tu peux dire autant de fois que tu veux que tu l'adores, t'auras un texto.
Ah mais j'attends le texto ou l'appel avec, c'est vous qui rigole ça. J'adore, c'était un phénomène quand même Luis. Sans transition, Coupe du Monde.
Wendy Renard.
Ah ouais.
C'est l'équivalent de Boba Appé.
Ah bah c'est ça.
C'est beau.
On a eu un scénario incroyable hier. Nous sommes dans l'hôtel de la sélection du Nigeria. Les filles sont devant la télé. Elles ne sont pas encore qualifiées pour les huitièmes de finale. Elles attendent le résultat de Chili-Thaïlande. Elles sont devant la télé. Pénalty pour le Chili qui mène 2-0. Si le Chili marque le péno, parce que ça se joue à la différence de but, c'est hyper compliqué. Il n'y a que François Pinet qui comprend tout. Les Nigérians sont éliminés. Pénalty est raté. Bing, sur la barre, 3 minutes après, c'est la fin du match. Nous sommes dans les couloirs de l'hôtel. Les filles, vous êtes qualifiées. Et là, c'est du délire dans tout l'hôtel. C'est comme si elles étaient sur le terrain, qu'elles viennent de marquer un but et qu'elles sont qualifiées. C'est absolument incroyable. Et c'est pour ça qu'une Coupe du Monde de foot, c'est quand même très bon.
Et c'est pour ça aussi que c'est pas mal finalement ces histoires de troisième.
Ah bah ça crée ce genre de scène, François.
Le meilleur troisième qualifié. Personne ne comprend, mais moi je trouve ça sympa. Petit sur le poteau du Chili, où
alors certaines sont en larmes, oui. certaines crient de joie, de rage. Il s'est passé quand même un truc incroyable. Un pénalty sur la barre qui qualifie le Nigeria.
François Pinet, il aime sans émotion dans les hôtels. Nous, on préfère sur un terrain, tu vois, avec les mecs exultent, avec les supporters, etc. C'est lui, il adore dans les hôtels.
Tu veux nous en parler de ça.
C'est peut-être une passion pour les hôtels,
oui,
je sais pas.
Mais
t'as un
des trucs des fois dans les hôtels.
Mais t'as un crevard, t'as même pas pensé une fois à la pauvre fille qui a tiré le pénalty.
Bien sûr que ça m'a attristé.
Il doit être au 36ème.
Mais attends, est-ce que ça voulait dire que le Chili, du coup, était pas qualifié?
Ouais, mais la fille qui tire le pénalty sur la transversale. Je ne sais pas si elle est encore parmi nous.
Le Nigeria.
Parce qu'elle n'est pas bien.
Le Nigeria qui affrontera en 8ème de finale. L'Allemagne. Bonne réponse de
François Pinet.
Ils sont journalistes, heureusement, Franck. Heureusement qu'ils doivent savoir ça quand même.
Oui, mais vous aussi, vous devez savoir.
Sans transition, direction.
Non, nous on analyse les matchs.
Ouais.
Madrid avec la photo qui affole l'Espagne et même l'Europe du foot. Vous êtes spécialiste en communication et en foot. Vous allez analyser cette photo et le message qui va avec. Neymar a des volontés de départ de Paris. Bon, ça on sait. Certains médias parlent d'une offre du Real Madrid. Il y a plein de rumeurs qui tournent autour de Neymar, Barcelone et donc Madrid. Hier, photo postée par Karim Benzema. Oui, Karim Benzema. Il est aux côtés de qui ? De Neymar. Du coup, tous les médias espagnols tentent d'interpréter cette photo. Ils ont l'air copains, ensemble, ils sont contents. Pourquoi Benzema publie cette photo maintenant alors qu'il y a cette rumeur de Neymar au Real? Est-ce qu'il envoie un signal à Zizou et à Florentino Pérez pour lui dire prenez Neymar?
Il a des lunettes, Benzema.
Il a des lunettes, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, regardez bien, ouais. Il montre Neymar.
Sur cette photo, il y a quand même plein de choses.
Il y a un texte, Willy. 9 et Ney avec le hashtag crack. Nous sommes des cracks.
D'accord.
Ah ouais, il a mis
crack. Donc alors, on va essayer d'analyser la photo.
Ouais.
Donc déjà la question, ils font quoi avec leurs doigts?
Je comprends pas. Ils se montrent tous les deux, voilà. C'est un truc de jeu.
Et Neymar, expliquez-moi pourquoi à chaque fois qu'il y a une photo de lui postée sur un réseau social, pourquoi il a toujours les yeux à demi fermés?
Parce que c'est le flash.
Moi, c'est j'ai cette tête quand je suis bourré, moi.
Avec modération, faut être bourré.
Il est bourré avec modération.
Non, même pas.
Donc voilà, à vous d'interpréter. On ne sait pas trop ce que ça veut dire.
Parce que quand tu viens d'acheter Hazard, qui joue sur la même place que Neymar, bon, voilà.
Non, mais on peut dire quand même un peu sérieusement qu'on s'en fout, en fait. Ça veut rien dire. Il n'y a aucune signification.
Il sait très bien ce qu'il fait, Benzema.
Non, parce qu'Hazard est à la place de Neymar et qu'ils ne vont pas prendre Neymar.
Donc, parce qu'il a pris une photo, ça veut dire que ça pose problème pour Hazard.
Benzema, il connaît assez maintenant la communication.
Non, je dis que non, au contraire, que Neymar, il ne va pas venir au Real Madrid parce qu'il y a déjà Hazard.
Ah oui, donc il n'y a aucun problème.
Ou alors, ils vont être obligés de revendre Hazard.
Non, mais. Pourquoi pas? Combien? Plus cher ou moins cher qu'il l'a acheté? Donc voilà, à vous d'interpréter. Je sais pas moi. Je pense que c'est calculé de la part de Benzema. Bon, c'est un message.
Ancien du Barça posé avec le à madrilène, ça ne fait pas trop.
Ça veut dire que Karim Benzema préfère Neymar à Hazard. Aïe.
Oh là là, ouais,
problème de vestiaire.
Envoyez un texto à Zizou. Demandez-lui ce qu'il en pense.
Non, je vais le laisser tranquille.
Willy.
Non, c'est vacances. On va le laisser tranquille.
Et ce qui engendre la suspicion pour clore le dossier, c'est qu'en fait. Ils sont pas forcément ensemble, ça date pas de peut-être d'hier cette photo, parce que Neymar est censé être au Brésil et Benzema en vacances à Los Angeles.
C'est encore plus fort,
c'est qu'il publie une photo qui date d'il y a 2 ans dans le contexte de la rumeur. Moi je trouve qu'il y a un message.
Elle est publiée maintenant, cette photo.
Il y a Anguille Soroche.
Sans transition, vous en parlez dans 5 minutes, mais êtes-vous compétent pour en parler? Question pour une grande canne. Coupe. Eh oui. Égypte, forcément. Coupe d'Afrique des nations de football. Question pour une canne. Début ce soir. 3 questions pour voir si vous êtes compétent. Normalement, les journalistes sont supérieurs. On va voir.
Normalement.
Jean-Louis, c'est
normalement.
Il se prépare.
Quel est le meilleur buteur de l'histoire de la CAN?
Samuel Eto'o.
Bonne réponse de François Pinet. C'est un spécialiste. 18 buts quand même pour Samuel Eto'o fils.
Impressionnant.
Quel Quel est le joueur qui a joué le plus de matchs dans toute l'histoire de la Coupe
Le gardien de l'Égypte.
Roger Milan, non. Le gardien de l'Égypte, non.
François Manbic.
Non, c'est un joueur qu'on adore tous. Hein. Moi, je l'adorais, ce joueur. Et franchement, je pense que tout le monde, c'est la classe.
Didier Drogba, Drogba.
Ça relance bien, c'est propre, c'est grand, ça met des têtes.
Song.
Rigobert Song.
Bravo.
Oh là là.
Ça met du temps à monter. Rigobert Song, légende.
Bien sûr. Légende, oui.
36 matchs. Franchement, 36 matchs dans une phase finale, c'est beau.
C'est magnifique.
Bravo. Et dernière question, ça sera l'occasion de lui rendre hommage. En 2004, quel sélectionneur gagne la CAN?
Quand
2004.
Hervé Renard.
Le Chantre. Le Maire.
Roger Le Maire avec la sélection Tunisie. Quatre ans après la victoire à l'Euro. Encore un titre pour Roger, j'avais oublié, moi, c'est 2004. Vrai, c'est vrai. Avec la Tunisie.
Bien vu.
Coupe d'Afrique des Nations de football. Bravo Roger. Hommage à Roger.
Qu'est-ce que j'ai tatoué sur ma cuisse?
Roger.
Qui peut rappeler la CAN.
Ah, j'ai très peur de ce que vous m'entendez, Jean-Louis. Peut-être qu'il faut les tendre
dans l'antenne.
Ginger. Lemon.
Je sais pas, le drapeau du Sénégal.
Ramsès 2.
2002.
Et pourquoi t'as trouvé Ramsès 2?
Je suis un grand malade de Ramsès 2.
C'est vrai?
Vive l'Egypte.
Bravo.
Ah ouais, je suis depuis Christian Jacques et voilà, je suis un grand malade.
Vive l'Egypte. Tu l'as bien connu, non?
Tu sais que ma mère est née à Alexandrie.
C'est vrai?
Eh ouais.
Pour nous rapprocher comme ça, c'est
formidable.
C'est
magnifique. Mais moi, j'ai vu Ramsès 2, j'étais très jaloux. Le mec, il a 5000 ans, il a toujours des cheveux sur la tête. Un peu comme François, mais il a toujours des cheveux.
C'est moi qui vais être très très jaloux.
Est-ce que le CSA peut intervenir pour nous libérer de François Leboeuf? Est-ce qu'on peut trouver un truc?
Je vais dire, tu m'emmerdes.
On peut trouver d'une façon ou d'une autre un truc. Merci Adrien.
Merci les gars.
Merci Adrien.
Comment?
Merci.
Le champion du monde de questions pour et Jean-Louis Tour officiellement.
Francky, merci beaucoup. Bonne soirée.
C'est un plaisir, je vais y aller.
On revient dans un instant avec Laure Le Pailleur et Rio Mavouba. Cette Coupe d'Afrique des Nations peut-elle échapper à l'Egypte? On sera sur place au Caire avec notre envoyé spécial. A tout de suite.
RMC, 18h-20h, ici c'est Willy.